Sétif, 8 mai 1945. Aujourd'hui, prononcer cette phrase dit quelque chose à peu près tout le monde. On sait vaguement qu'il y a été d'une répression contre une manifestation de l'indépendance algérienne au moment de la fin de la guerre 39-45. 1945, c'était 9 ans avant le début de ce qui a été la guerre d'Algérie, qu'on appelle enfin ainsi aujourd'hui, plus de 50 ans après, ce qui furent les événements d'Algérie de novembre 54 à mars 1962. Je vous propose donc de revenir un peu plus en détail sur ce qu'il en a été de ce qui s'est passé en Algérie à partir du 8 mai 45 durant les semaines et mois qui suivirent. En très peu de mots, c'est simple. Un bilan final. Une centaine de morts européens et du côté musulman, un bilan jamais volontairement établi, qui va de 500 selon les militaires français à 45 000 selon les Algériens après leur recensement des victimes. Comprendre et connaître ces événements est important. Et il n'y a pas lieu de s'étonner pour un esprit lucide que 9 ans après, la même aspiration de liberté et de justice du peuple algérien le conduise à reprendre la lutte sur une base cette fois déterminée et organisée jusqu'à la victoire finale. Notre émission se propose donc de vous offrir une vision un peu globale des événements en les resituant dans le contexte de l'Algérie de l'époque et de la situation géopolitique d'alors. Sétif Guelma Kerata. Il nous faut tout d'abord revenir aux origines, même partielles, de tout cela. Et sans vouloir remonter plus loin, ce qu'il faudrait très utilement faire, et aussi ce que nous avons déjà fait dans notre émission Vendémiaire 48 du 30 septembre 2013, Histoire de l'Algérie, toujours écoutable sur le blog de l'émission. Revenons au mois de juin 40, à ce moment où la défaite surprise des Français a instantanément fait perdre son prestige à la puissance colonisatrice. Ainsi, Kateb Yassin a pu dire dans un entretien en 1984 « Très jeune, je sentais déjà à partir de 1940 la montée du nationalisme et un changement dans nos rapports avec les Européens. Avant cette date, on craignait ces Européens qui nous paraissaient supérieurs. Mais la haine allait nous donner du courage et on arrivait même à les insulter. J'ai été frappé par cette attitude et ce changement dans notre état d'esprit. » Fin de citation. La population indigène en était largement à attendre que le Reich s'installe en Afrique du Nord, avec une antipathie affichée pour les Italiens et pour les Anglais. Donc, l'hostilité grandissait entre musulmans et Européens. Les Juifs, quant à eux, ont perdu le 7 octobre 1940, décret Crémieux, la nationalité française acquise en 1870, ce qui les poussa à se rapprocher de la communauté musulmane dans ses aspirations anti-françaises. Les Allemands, conscients de l'importance de la radio, créent une radio de propagande en direction des musulmans, Paris Mondial. Mais Salihadj, cependant, ne fit jamais allégeance aux nazis et fascistes et excluait du PPA tout militant dérogeant à cette règle. Toutefois, à partir du débarquement du 8 novembre 1942, l'Allemagne perdit la confiance des Algériens qui se tournèrent vers les Américains qui apparurent alors comme les futurs libérateurs de l'Algérie. Et la Charte de l'Atlantique, publiée le 26 août 1941, prônait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Citation. Que soient rendus les droits souverains et le libre exercice du gouvernement à ceux qui en ont été privés par la force. C'était clair pour les Algériens qui s'y retrouvaient très bien et chez qui cette charte a suscité un immense enthousiasme. Parallèlement, on assistait, surtout dans l'Est algérien, à une forte adhésion des Européens d'origine italienne à Mussolini. Et il pouvait atteindre le tiers de la population des colons dans certaines villes. En se défiant donc de la France, moins à même de les soutenir, eh bien des colons du Constantinois étaient acquis au fascisme et absolument déterminés à s'opposer aux revendications des Algériens. Le 31 mars 1943, Ferhat Abbas publie son « Manifeste du peuple algérien ». Document sans aucune ambiguïté sur les aspirations du peuple algérien à se gouverner lui-même selon une constitution propre. En guise de négociation, le général de Gaulle annonça des réformes en décembre 1943 et publia une ordonnance le 7 mars 1944 qui ne correspondait en quasiment rien aux revendications du manifeste. En réponse, Ferhat Abbas dépose les statuts des Amis du Manifeste et de la Liberté, les AML, le 4 avril 1944. Il était alors question d'une République algérienne associée à la France. En quelques semaines, il y eut 500 000 adhésions aux AML. Dès juillet 1944, l'administration militaire française voulait dissoudre ce mouvement portant atteinte à l'intégrité du territoire national. Et le 25 avril 1945, il y avait 171 sections des AML en Algérie, dont 84 dans le Constantinois, dont encore 13 à Guelma. Les scouts musulmans algériens sont un mouvement de jeunesse, passablement noyauté par le PPA et largement acquis aux thèses indépendantistes des Algériens.
والهناء والرجاء في هوان الأراء سالما كل عمل وغانما مكرما. مكرما سالما منعما وغانما مكرما الحرار في علاج تبلغ بمن تبلغ بمن موطني 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 الشباب لم يكل عزمه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد كالعبيد لا نريد لا نريد ثلثنا مؤفدا وعشنا منكدا ثلثنا مؤفدا وعشنا منكدا لا نريد بل نعيد
Le 1er mai 1945, le gouverneur général a décidé d'autoriser la célébration du 1er mai dans les trois départements Alger, Oran et Constantine. Le PPA se saisit de l'occasion pour organiser des manifestations, surtout destinées à montrer aux autorités françaises l'aspiration du peuple algérien à sa liberté et à son indépendance, ainsi que la demande de libération de Messali Hadj. Une consigne, pas d'armes. Des slogans, libérer Messali, libérer les détenus politiques, abat le colonialisme, vive l'Algérie indépendante. À Alger, la manifestation fut sanglante, des affrontements et une dizaine de morts, mais seulement 4 blessés selon la police. À Sétif, ce 1er mai, une grosse manifestation de quelques 5000 personnes, mais pas de violence. À Guelma aussi, une importante manifestation avec les mêmes slogans, mais pas de violence non plus. Un peu partout en Algérie, le PPA, Parti populaire algérien, réussit sa démonstration nationaliste et le drapeau algérien fut brandi pour la première fois dans plusieurs grandes villes. C'était une démonstration tournée vers l'État français, mais aussi vers les puissances étrangères en ces derniers jours où l'on attendait la chute du Reich nazi. Et nous arrivons au 8 mai 1945. Le 8 mai, les amis du Manifeste de la Liberté sont décidés à s'associer à la célébration de la victoire et de la démocratie, d'autant plus que le sang du peuple algérien a lui aussi coulé pour aboutir à cette victoire. Aussi, le PPA donna l'ordre à ses militants de manifester pacifiquement ce jour-là et du même coup de rappeler aux nouveaux vainqueurs les promesses solennelles de liberté et d'indépendance. Les manifestants devaient porter les drapeaux des Alliés et le drapeau algérien. Ces manifestations étaient préparées depuis le 3 mai, date à partir de laquelle le PPA avait prévenu ses militants de l'imminence de la capitulation allemande et donc de la nécessité de préparer les manifestations de la victoire.
سعيد هلا قاسينا
À Sétif, le 8 mai, comment cela s'est-il passé? Un rassemblement, comme prévu, devant la mosquée du hangar, drapeau et banderoles sont prêts. Et à 7h du matin, une foule considérable est déjà là. À 7h30, une brigade de police constate l'ampleur du nombre et l'enthousiasme élevé des manifestants. À 8h30, le sous-préfet convoque les responsables et les met en garde contre tout incident pouvant survenir. Un service d'ordre encadrera la manifestation, 40 policiers et 20 gendarmes. Les militants font déposer toutes les armes aux manifestants. Entre 8h30 et 9h, le cortège s'ébranla avec en tête 250 scouts en tenue, suivis de porteurs de gerbes et drapeaux, puis ensuite les pancartes et banderoles. Les policiers estiment le nombre des manifestants de 7 à 8 000 et El Moudjahid parle, lui, de 15 000. À un moment donné, les pancartes, banderoles et drapeaux sont déployés. Un jeune scout, Sal Bouzid, a été désigné par tirage au sort pour porter le drapeau algérien. Des chants patriotiques et nationalistes accompagnent la manif. Min Djibalina, Mountini, Fidaou El Jizair Houi Boa Mali. Tout se passait bien, mais la tête du cortège, arrivant au niveau du Café de France, le commissaire de police Olivieri se précipite sur le porteur du drapeau algérien. Il agissait sur ordre du sous-préfet, qui, informé par téléphone, ordonna d'enlever les banderoles. Le commissaire Valère, sur place, avait bien fait remarquer que, avec 8000 personnes dans la manifestation, cela entraînerait de la bagarre. Le sous-préfet a répondu « Eh bien, il y aura de la bagarre ». Le drapeau était protégé par une trentaine de scouts qui s'opposèrent à l'action policière. Aussitôt, coup de poing et coup de feu policier, Sal Bouzid s'écroule mortellement touché. La panique saisit aussitôt les manifestants et tout le monde s'enfuit dans une atmosphère d'émeute. Des morts et des blessés sur l'avenue principale et les Européens rencontrés par la foule sont agressés indistinctement. L'armée est appelée et ouvre le feu. Vers 10h, un cortège de 3 à 4 000 manifestants se reconstitue et reprend l'itinéraire pour aller déposer une gerbe au monument aux morts, ce qui fut fait. Mais un quart de 18 gendarmes coupe le cortège en deux et tire sur les manifestants qui laissent plusieurs morts sur le terrain. Les manifestants fuient en attaquant tous les Européens rencontrés à coups de matraque ou de couteau. À 10h45, la ville est vide et aux mains des policiers et militaires. Ne restent dans les rues que les cadavres des victimes algériennes et européennes, en particulier dans l'avenue Georges Clemenceau. Le nombre des victimes européennes est connu, 28 tués et plus de 40 blessés. Le nombre des victimes algériennes n'a jamais été connu, les Algériens parlent de massacre. À 13h, le couvre-feu est instauré, à 20h, l'état de siège est décrété. Malgré cela, le lendemain, à 9h, 4 à 5 000 musulmans se rassemblent sur un boulevard au nord-ouest de la ville de Sétif. Ils sont dispersés à coups de feu, selon un rapport policier. La répression sera terrible. La loi martiale est proclamée. On distribue des armes aux Européens. Tout Arabe, non porteur de brassard fourni par les autorités coloniales, est abattu. Un journaliste américain rapporte « C'est la chasse ouverte ».
I'm
le 8 mai à Guelma. Guelma, c'est 20 000 habitants, dont 4 500 Européens. Peu de Français d'origine, mais surtout des Italiens, Maltais et Israélites. Comme ailleurs, le 7 mai, on prépare la manif du 8 de la même manière. Depuis le matin à 8 heures, des centaines de personnes attendent le signal du début de la manifestation. À 18 heures, le cortège s'ébranle. Le nombre, incertain, entre 1 000 et 10 000 selon les sources. Manifestation avec drapeaux algériens et alliés entremêlés. À 500 mètres du monument aux morts, le sous-préfet arrête la manif et ordonne de jeter pancartes, banderoles et drapeaux indépendantistes. La manif avance sous la pression des manifestants et le sous-préfet tire en l'air. Aussitôt, sans attendre d'ordre, policiers et gendarmes tirent sur les manifestants. Boumaza, le premier mort, est tué sur le coup. Et c'est la panique générale. Les manifestants fuient comme ils peuvent. À 21h, le couvre-feu est décrété. 3 autres musulmans sont tués dans la toute proche commune de Millésimo, ce qui entraînera les 9 et 10 mai l'assassinat de 12 Européens. Le sous-préfet Akhiari, abandonnant ses fonctions de fait, se transforme en chef de communauté ethnique et crée aussitôt une milice qui va ipso facto établir des listes de présumés suspects, en fait des gens à abattre de suite. Tout arabe rencontré en ville était soit arrêté, soit tué. Les personnes arrêtées deviennent presque toutes des disparues. Ainsi, le 10 janvier 1946, on publie une liste de 98 disparus non retrouvés. Et le 21 février 1946, 82 familles cherchent un disparu. Et le 18 avril 1946, des listes de 142 disparus sont publiées. Akhiari est responsable de presque tout à lui tout seul. Un autre sous-préfet, et il ne se serait peut-être rien passé. Le 19 mai, Lestrade Carbonel a téléphoné à Akhiari pour préparer la visite de Tixier, le ministre de l'Intérieur. La consigne donnée, déterrer au plus vite les cadavres et les faire disparaître en les brûlant dans le four à chaud la vie. Pendant 10 jours et nuits, on empila les corps et on les brûla par centaines. Pierre Fayet, député d'Alger à fin décembre 1945, déclarait « J'ai porté 2 accusations contre le sous-préfet Akhiari. L'une d'avoir sous Vichy, alors qu'il était dans la police à Alger, torturé des jeunes filles communistes, l'autre d'avoir fait exécuter sans jugement des musulmans. » Akhiari est un personnage abject, titulaire de la Légion d'honneur, qui en 1956 organisera la journée des tomates contre Guy Mollet. Et il sera un des promoteurs des 2 organisations de barbouzes fascistes, la Main Rouge et l'ORAF. On le retrouvera en 1961, fondateur de l'OAS à Madrid, et il finira par mourir dans son lit, à Madrid en 1983. À Tizi Ouzou, le 26 mai 1946, Ferhat Abbas évoquera les 800 musulmans de Guelma exécutés sans jugement. Un témoignage dans El Mujahid. Tous les hommes, surtout ceux âgés entre 18 et 30 ans, sont tirés de leur domicile et abattus. Même ceux que le hasard avait emmenés à cette époque à Guelma étaient tués. La folie de l'armée, de la police, de la gendarmerie et des miliciens ne connaissait pas de limite et ne faisait pas de distinction. La ville était dans la terreur. Les exécutions sommaires et massives poussèrent les populations rurales des environs de Guelma à la révolte qui sera étouffée par la répression. le 8 mai à Kerata. Kerata, 50 km au nord de Sétif, est une ville tranquille. Le 8 mai, mardi, jour de marché, à 11h30, on apprend les nouvelles de Sétif. Les Européens informés, l'administrateur s'empresse de rejoindre Périgotteville. Sur la route, sa voiture est arrêtée par un groupe de jeunes musulmans. Il est blessé et achevé. Les voyageurs du car en provenance de Sétif informent l'après-midi les habitants des événements de Sétif. Les Européens se réfugient alors au château d'Ussex, alors que les musulmans décident d'organiser le djihad contre les infidèles. À l'aube du 9 mai, 10 000 hommes se trouvaient à Kerata. À 6h45, le premier coup de feu tue le boulanger Gramont. Ça tire un peu partout, tribunal et postes sont attaqués, le juge de paix est tué. 500 Européens réfugiés au château ripostent aux attaques et tirent sur la foule en attendant le secours de l'armée. Les Européens qui, ayant la confiance des habitants et n'ayant pas rejoint le château, furent les premières victimes, dont le juge. Il y eut 10 morts européens et 4 blessés. La répression sera terrible. À midi, les automitrailleuses arrivent de Sétif et tirent tout azimut dans les villages et sur la foule fuyant Kerata. On parle de centaines de morts. Du croiseur Duguay-Trouin, des tirs sont opérés sur les crêtes et les villages. Le 9 dans l'après-midi, l'aviation entre en action et bombarde autour de Kerata tous les villages et Meshta. Dans les hameaux autour de ces villes, des soulèvements ont eu lieu un peu partout, avec des exactions de représailles contre les Européens. Les informations sur les événements survenus dans le triangle Sétif-Guelma-Kerata poussent le PPA à décréter une insurrection généralisée prévue pour le 13 mai. Mais, devant aussi la connaissance de l'ampleur et de la violence de la répression, le parti revient sur sa décision et l'ordre d'insurrection est annulé. Néanmoins, à un certain nombre d'endroits, soit que les ordres ne sont pas parvenus, soit que les militants ont décidé de passer outre, il y eut des attaques diverses dans maintes communes. Certains militants allaient fuir et se constituer en maquis. Certains de ces maquis subsisteront jusqu'au 1er novembre 1954.
الجبال العاليات الراسيات نحن قلنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر تشهدوا تشهدوا تشهدوا.
Dès l'annonce de la moindre agitation et des premières attaques d'insurgés, chars, artillerie, aviation et marine étaient mises à contribution. À partir du 11 mai, toutes les agglomérations étaient dégagées et les insurgés refoulés vers les montagnes. Néanmoins, les opérations militaires dureront jusqu'à fin mai début juin. La répression fut impitoyable, aveugle et féroce. Le général Thubert, chargé officiellement d'enquêter sur la répression, vit sa mission suspendue le 26 mai à 19h après 5 jours d'enquête, alors que tous les faits n'étaient pas connus et répertoriés. Mais, à coup sûr, pour en éviter la divulgation, on suspendit cette omission. On a parlé de génocide colonialiste. On ne peut pas raconter les détails, ils sont trop horribles. On dira tout de même l'utilisation intense pour l'amener des tirailleurs sénégalais. Les fours à chaux furent requis pour brûler les cadavres et les faire disparaître ainsi à tout jamais. Ainsi, à Héliopolis, où un témoin rapporte le va-et-vient incessant des camions. Pour la frime, on organisa partout des cérémonies de soumission où toute la population était invitée et forcée à participer. On leur tenait un discours sur la puissance et la mansuétude de la France et ils devaient se mettre à genoux et crier « Vive la France !» La Légion faisait se prosterner la foule devant le drapeau français et la foule devait répéter en chœur « Nous sommes des chiens et Feratabas c'est un chien ». À Chevreul, par exemple, 375 personnes furent fusillées après la cérémonie de reddition. il y a toujours 70 disparus. À Chevreul toujours, bien après les événements, suite à la mort d'un Européen, 127 otages furent assassinés par la milice dirigée par un dénommé Pradeille.
Dès le 8 mai, des milices étaient officiellement constituées par les autorités locales à Guelma, Fejemzala, Saint-Arnaud et Beaune. Les Européens avaient, au début, organisé leur propre défense et avaient participé dans un deuxième temps à la répression menée par la police et l'armée dès que le danger de la révolte fut écarté après l'intervention immédiate des renforts militaires. La chasse à l'arabe fut organisée par les miliciens à travers toutes les zones insurgées de Sétif, Guelma et Kerata, et même dans les agglomérations où aucun incident n'avait été signalé, comme par exemple à Saint-Arnaud. 8 ans plus tard, en 1953, ces miliciens évoquèrent encore leurs exploits et comparèrent leurs tableaux de chasse respectifs. À Guelma, la milice, créée par le sous-préfet Akiari et placée sous son autorité, reçut l'adhésion de 250 Européens. Il leur distribuait lui-même les armes et les poussait à la vengeance, prêtant main forte à la police et à l'armée. Hommes, femmes, vieillards étaient arrêtés, dirigés sur les lieux d'exécution à la carrière à Kaf El Boumba et fusillés en masse. Des corps étaient entassés devant le parvis de l'église, arrosés d'essence et brûlés en présence de centaines de musulmans, spectateurs forcés. Abdelkader Yels n'a rien oublié. Citation. Quant à la répression, elle était atroce. On ne s'attendait pas à cette boucherie qui a duré jusqu'au 23 mai. Même les Italiens qui étaient au service des colons ont participé aux côtés des Tabors, des Sénégalais et des milices à cette répression. Je ne peux jamais oublier les martyrs du 8 mai 45. Ils ne sont pas morts pour rien. Un responsable du PPA à Guelma, qui avait échappé par miracle à la fusillade, et appelé depuis cette époque l'homme qui a sauté du camion de la mort, raconte, citation, « Je voyais des camions qui sortaient de la ville, et, après les intervalles de 10 à 15 minutes, j'entendais des coups de feu. Cela a duré 2 mois. Les miliciens ramassaient les gens partout pour les tuer. » Les exécutions se faisaient surtout à Kaf El Boumba et à la carrière de Hadj Mbarak. C'était la chasse à l'arabe. Il y avait des morts partout autour de Guelma. Les colons, qui étaient tous des Maltais et des Italiens, les Sénégalais, les Tabors et les prisonniers italiens, armés par les colons, tuaient les enfants, les femmes et les vieillards qui n'ont pas pu fuir dans les montagnes. Je cite l'exemple de la ferme de Belaïd, le Mozabit, où je me suis caché le premier jour. Les miliciens et les Sénégalais y tuèrent 18 personnes, des femmes et des enfants qui n'ont pas pu fuir. Nous, les hommes, nous avons pu nous sauver à temps. Si nous cherchons actuellement, nous pouvons facilement déterrer les restes des victimes assassinées en 1945 sur un rayon de 15 à 20 kilomètres autour de Guelma. Fin de citation. Dans une émouvante intervention parlementaire, Mohamed Chouadria, député de Constantine, fait des révélations et accuse ouvertement les miliciens réunis par le sous-préfet Akiari, l'administrateur Raymond et le colon Chemoul. Citation. Des fusillades en masse eurent lieu. Je voudrais attirer l'attention sur la répression sanglante, sauvage, inhumaine à Villars, alors qu'une batterie de 75 bombardait deux douars, 2 ou 3 jours après le déclenchement des événements qui ont coûté la vie à un colon européen dont nous déplorons la mort avec celle des autres victimes. Plusieurs centaines d'habitants des douars environnants furent convoqués par Raymond, administrateur de la commune mixte de la Sefia. En leur présence et devant Akiari, 9 musulmans furent alignés devant les murs et fusillés dans le dos par des miliciens volontaires, réunis sous les ordres d'Akiari et de Raymond qui disaient « Vengez-vous, messieurs les colons !» Dans un petit centre près de Guelma, Chemoul, avec l'aide de 15 prisonniers italiens, a tué des pauvres fellahs et même une malheureuse femme. Un musulman, père de 3 enfants nommé Naam Tahar, qui n'avait commis aucun acte répréhensible, sortait de son gourbi avec un drapeau français. Il fut mitraillé à bout portant. Sa femme fut abattue à sa sortie par le criminel Chemoul. Fernand Grenier, député communiste, cita dans son intervention parlementaire les noms des miliciens qui avaient prêté main forte au sous-préfet, à Chiari et à l'administrateur Raymond. Citation. La plupart de ces miliciens sont français de fraîche date. Ils s'appellent Grémona Popol, Grémona Antoine, Grima Loulou, Paolo Di Malta, Alfred Luzet, père et fils, Ernest Collin, tous volontaires pour la fusillade et fascistes, bien entendu. Fin de citation. Dans une autre intervention parlementaire, en mars 1946, Pierre Fayet, député d'Alger, communiste lui aussi, accusa ouvertement le sous-préfet Akhiari d'avoir fait exécuter sans jugement des musulmans. Il avait précisé que ce dernier avait reconnu officiellement avoir fait exécuter 11 personnes. Le sous-préfet Akhiari ne craignait aucun contrôle. En effet, le 18 mai, il refusa de recevoir une délégation de notables musulmans à qui il a déclaré « Ici, il y a un seul notable, c'est moi. La France, c'est moi. » Plusieurs accusations furent versées au dossier Akhiari. Des gamins, des octogénaires, un grand mutilé de guerre, fusillés sur la route, sans jugement. Devant les plaintes des parents des victimes et des divers milieux musulmans, ainsi que les révélations au journal Liberté, le ministre de l'Intérieur déclara officiellement le 29 décembre à la Constituante qu'une instruction était ouverte pour le cas du sous-préfet Akhiari. Le journal Liberté publia plusieurs plaintes, mais surtout des listes complètes qui furent transmises à l'instruction. Aucune trace de toutes les victimes cité par centaines, n'avait été trouvé. À Annaba, les prisonniers italiens, groupés en une milice armée par les autorités, avaient reçu l'ordre de faire feu sans sommation sur tout arabe qui tenterait de fuir. Dans les agglomérations édouards environnants, des exécutions en masse eurent lieu. Hachsen Derdour, l'un des rares témoins dans cette ville, avait écrit, citation, « Mais à El Adjar, Dréan, Bouchagouf et Medjesfa, c'était beaucoup plus grave. Dès le 9 mai au matin, on constitua des pelotons d'exécution, face auxquels toute une jeunesse fut fauchée comme blé mûr. Son crime est d'être venu à Annaba se mêler au cortège pour manifester sa joie. Dans les douars, ce n'étaient ni les militaires ni les policiers qui accomplissaient ces forfaits, mais les colons eux-mêmes qui se ruaient contre les gourbis, piétinaient les familles, lisaient leur verdict de mort et sous la menace des armes obligeaient leurs victimes à creuser leur tombe. La nuit, durant ce couvre-feu, décrété juste après l'émeute dans l'après-midi du 8 mai, ce fut aussitôt la riposte des policiers qui mintent les musulmans sur le qui-vive jusqu'au lever du jour afin de venger les siens. Les policiers se mirent à violer les domiciles et opérer à l'arrestation de tous ceux qui étaient soupçonnés de faire partie du PPA, des Amis du Manifeste, de l'Association des Oulémas, tandis que les camions de l'armée anglaise les transportaient vers le camp d'internement de la Madrague. Pour la plupart, ils périrent dans les cellules de la Casbah, des suites d'un traitement inhumain. Cette milice fut officiellement créée le 9 mai, et de l'aveu même du ministre de l'Intérieur, 150 hommes avaient reçu des armes, et effectuait des patrouilles sous la direction de la police d'État. Cette organisation ne sera dissoute que le 20 mai. À Sétif, des colons, sans attendre la formation officielle des milices, s'organisèrent en bandes. Les journaux citaient des noms. Les hommes de la bande Grima, avec Fontano, Carbonel, Colombo, Mazuka. Après sa libération, Ferhat Abbas accusa ouvertement le préfet de Constantine, l'estrade Carbonel. Durant tous les meetings et réunions organisées pendant la période préélectorale et électorale, il évoquait les événements du 8 mai et la responsabilité des crimes de ce haut fonctionnaire. Le 23 mai 1946, à Saïda, devant 800 musulmans et une douzaine d'Européens, il déclarait en français « Le préfet de Constantine a ordonné de tuer les Arabes ». Le 26 mai, à Tizi Ouzou, il critiqua l'administration française, la police, qu'il a accusé d'avoir organisé et provoqué sous la direction de ce « salopard de l'estrade Carbonel » les troubles de Sétif, où tant de victimes innocentes, françaises et musulmanes, trouvaient la mort. Plus tard, il écrira « Les colons, appuyés par la police et l'armée, se livrèrent à des violences indescriptibles, indignes d'un monde qui se dit civilisé. » La jeunesse qui formait les cadres des AML paya un lourd tribut à Sétif, Périgotteville, à Kerata, à Oued-Marsa, à Guelma, à Beaune. Les colons, groupés dans des milices, assouvissaient leur haine et fusillaient par milliers des jeunes après leur avoir infligé les pires tortures. La chasse à l'arabe, comme au temps des Robigaud et des Saint-Arnaud, était revenue en honneur. Les témoins, toujours rares, anciens condamnés, racontent ce qu'ils ont vécu à Sétif. Le lendemain, je fus arrêté. On m'accusa d'avoir tué deux Européens. Je fus torturé. Et si je suis encore en vie, c'est par miracle et grâce à Dieu. C'est le cas pour tous ceux qui ont été arrêtés. Après, on nous a transférés au camp, et c'est là que la milice intervenait. La nuit, les miliciens se présentaient avec des listes et prenaient parmi nous les prisonniers qu'ils fusillaient derrière le mur. On entendait les coups de feu. Les militaires musulmans étaient témoins. Le frère de Kiyar, un militaire, avait assisté aux fusillades et il venait nous prévenir. Les miliciens étaient des colons qui parlaient bien notre langue arabe. Ils venaient commettre leurs crimes toutes les nuits. Sur l'attitude des militaires algériens, le capitaine Fraisse avait écrit, citation, « Par contre, les éléments musulmans citoyens français des troupes dites métropolitaines, craignant pour eux et leurs familles, se sont montrés très résolus. » À Chevreul, les miliciens fusillèrent les suspects par groupe. Au total, 375 personnes furent fusillées juste après la cérémonie de reddition et 70 personnes étaient portées disparues. Les noms de toutes ces victimes sont actuellement inscrits sur la stèle commémorative. À Kerata, des prisonniers étaient égorgés et jetés dans le ravin à partir du pont qui porte actuellement le nom de Hanous, qui fut assassiné à cet endroit avec ses trois enfants. Les délégations financières, réunies le 15 mai en séance publique, adoptèrent une motion pour la création de milices dans tous les centres de colonisation. Citation. L'armement immédiat et sérieux de tous les centres dépourvus de garnisons militaires, notamment les petites localités et fermes isolées, avec création immédiate de gardes civiques, engageant la responsabilité de maires et administrateurs, sous peine d'assister à l'abandon par les populations injustement inquiétées et terrorisées de tous les territoires qu'elles habitent. Bien après les événements et la cessation des opérations militaires, des Européens, animés par un sentiment de vengeance, exécutèrent sans jugement des innocents. Eugène Vallée cite l'exemple de Parmentier, dont la femme fut tuée à Sétif et qui ne parlait que de vengeance à assouvir, et de son ami Bellon. Il tirait sur des passants indigènes sans qu'il y ait provocation de leur part. Le 18 avril 1946, le tribunal militaire de Constantine condamne Parmentier à 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour et son ami Bellon à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d'interdiction de séjour. Partout, les colons organisés en milice vengeaient leur mort bien après les événements. À Chevreul, par exemple, 127 otages furent, à la suite de la mort d'un Européen, assassinés par la milice dirigée par Pradeille, adjoint spécial dans cette agglomération. À Borjbou, à Reridge, où aucune agitation n'avait été signalée, les miliciens fusillaient sans jugement. Les frères Vigliano, les frères Gallia, étaient parmi les miliciens les plus connus. Cette répression n'avait pas suffi aux colons, qui demandèrent une répression judiciaire sévère. La répression judiciaire. Comme si tout cela n'était pas suffisant,
on a réclamé et organisé la répression judiciaire. Et une motion votée le 15 mai 1945 par les représentants des colons demandait au gouverneur général que la justice frappe impitoyablement les coupables d'atteinte aux droits de l'ordre français. Et le 29 juin 1945, le ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier, pouvait annoncer 7400 arrestations. Dans chaque ville, les condamnations tombaient et des têtes avec. Le 26 juin 1945, 28 condamnations à mort sur 170 condamnations. Au final, un an après, on comptabilisait 1885 condamnations, dont 151 à mort et 28 déjà exécutées. Parmi tous les inculpés, on dénombre seulement 84 adhérents des AML, dont la plupart furent reconnus innocents par la suite. La répression fut telle que le colonel chargé des fonctions de commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire de Constantine se suicida. Son suicide s'expliquerait par sa crainte d'avoir un jour à répondre de la répression menée contre les musulmans. Sa haute conscience, a dit son confesseur, lui interdisait d'ajouter des assassinats d'innocents à tous les crimes connus. Le général Thubert a déclaré plus tard « Des groupes de colons armés s'arrogeaient le droit de juger et de fusiller, et nous avons le regret et l'obligation de déclarer qu'en ne sanctionnant pas ces faits, le gouvernement de l'époque a refusé à ses ressortissants la justice et la vérité. »
Oh, heure quelle heure, quand on me rassale, ne crée-t-il dire, elle تخذي ما لا عامين جاح لا عقلي نثد لا قال لا طلاما وقواذ لا لا أذن حشام لا غير الحباب السنا لهلا اقعر حجال هلا تلال الزمان نوبات هلا هلا غاذن حشام هلا هلا غير الحباب السنا لهلا اقعر حجال هلا تلال الزمان.
Le bilan humain. Il est clair qu'une action armée n'avait pas été programmée pour le 8 mai par les Algériens. D'ailleurs, les insurgés n'étaient pas armés au sens militaire du terme. Mais face à cette répression, ils en tireront des leçons. Nécessité de la préparation militaire, recherche et emploi d'armes, création de maquis. Les Algériens ne voulaient plus courir de risques pour rien. Dans les trois départements concernés, il y avait environ 1 million de musulmans. 50 000 environ ont participé aux troubles, soit quelque 5%. Les victimes européennes, selon le ministère de l'Intérieur, 88 tués et 150 blessés. Le rapport Thubert, lui, cite 103 tués. Les victimes musulmanes, un nombre toujours impossible à connaître. Les militaires, évidemment, parlent de 500 à 600 individus tués. La réalité est tout autre. Rien que dans la région de Sétif, 20 000 musulmans furent massacrés. Les fusillés à Guelma, de l'ordre de 5 000. Alors, les chiffres sont très variables. Goussard dit 10 000 selon le rapport officiel. 50 000 disent les musulmans. Thubert parle de 15 000. Henri Alec déclare que, dans l'entourage du général Duval, on parle de 7 500. Le gouvernement général estime, lui, 5 à 6 000. Un journaliste américain, Sulzberger, estime entre 7 et 18 000. Le 23 mai 1946, Ferhat Abbas déclare s'incliner devant les 20 000 morts du Constantinois. Le journal El Jumhuria, du 27 août 1948, cite le chiffre officieux de 30 000 victimes. Le journal El Mar, du 9 mai 1952, cite le chiffre de 40 000. Le chiffre du PPA, selon El Mujahid, retiendra en finale, après un bilan minutieux et exhaustif, 45 000 victimes, dont une centaine d'Européens. Désormais, le chiffre officiel des commémorations est de 45 000 martyrs. Les oulémas parlent toujours de 80 000 à 85 000. Rien dans les statistiques officielles militaires sur le détail des opérations et leur bilan, meshta par meshta, douar par douar, etc. Ce qui est clair aussi, c'est que les indigènes exterminés n'étaient pas ceux qui avaient participé aux troupes. En 132 ans de colonisation, de 1830 à 1862, il n'y a jamais eu de bilan des victimes des répressions, et même pas pour les épidémies. Corollaire de ces événements, les orphelins. Le 20 août 1946, le préfet de Constantine comptabilisait 1370 orphelins. Conclusion. Voilà un éclairage sur les faits, certes bien incomplet, mais qui donne une idée de ce qu'il en fut. Une répression que l'État français dissimule toujours, comme toutes ces répressions coloniales en Algérie et ailleurs. Or, la vérité doit être dite et connue. Ces faits sont un peu oubliés ou mis de côté aussi parce que la guerre de libération de 54 à 62 les a occultés et remplacés dans la mémoire. Tellement d'autres exactions ont eu lieu durant celle-là que les précédentes en furent submergées. Et puis, en 1945, les métropolitains avaient d'autres soucis qui les occupaient pleinement. Il fallait traquer les suppôts des nazis et accueillir les déportés. Mais en Algérie, la mémoire du 8 mai 45 est bien entretenue par les commémorations. À ceux qui pensaient encore, côté algérien surtout, qu'une cohabitation harmonieuse avec les Européens était possible, la tragédie des massacres a effacé leurs illusions. Ils savaient dès lors à quoi s'en tenir et il ne leur restait qu'à ronger leurs freins jusqu'en novembre 1954. Pour réaliser cette émission, nous avons surtout utilisé deux ouvrages qui sont de terribles témoignages et que vous pourrez consulter pour en savoir encore plus et mieux comprendre. ils ne sont pas forcément faciles à trouver, mais si on cherche, on y arrive. Il s'agit de Chroniques d'un massacre, 8 mai 45, Sétif Guelma Kerata, de Boussif Medjahled, M-E-J-H-A-L-E-D, aux éditions Syros, publiées en 1995. Et de l'ouvrage Les massacres de Guelma, par Marcel Régui, un journal des événements par un témoin acteur du drame. Journal qui resta inédit pendant plus de 50 ans, celui-là disponible à la Découverte Poche en 2008. Les extraits musicaux que vous avez entendus au fil de cette émission sont des chants ou des extraits de chants nationalistes algériens ou de chants traditionnels interprétés par Taos Amouche.
قسما بالناس لا تلاحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والقلوب اللامعات الخافقات في الجبال العاليات الراقيات نحن قرنا فحياة أو ممات واعقدنا العزم أن تحيا الجزائر تشهد 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 نحن جند في سبيل الحق قلنا وإلى استقلالنا بالحرب قمنا لم نكن تصغي فرنسا إذ نفقنا فاتخذنا رنة البارود وزنا وعزفنا نغمة الرشاش لحنا وعقدنا العزم أن نحيا الجزائر تشهدوا 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 يا فرنسا قد مضى روح العتاد وقويناه كما يقوى الكتاب يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي من الجواب إن في الفوات لا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا 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 Thank you.